Radio Kapi.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal du soir de Radio Okapi dont voici les titres. La rougeole sévit désormais à nouveau dans la province du Congo central et c'est au dernier trimestre de l'année écoulée que ce retour a été constaté. Les chiffres à ce jour parlent de plus de 500 cas suspectés et plus de 5 décès. C'est demain que la RDC met en circulation une nouvelle plaque minéralogique pour véhicules qui aura cours dans le pays. Tous les éclairages sur cette nouveauté dans ce journal. La République démocratique du Congo a commencé il y a 3 jours son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, une position que le pays a déjà occupée dans son histoire, mais que peut-on vraiment recevoir de la RDC à ce poste pour cette autre occasion? Un expert en relations internationales est notre invité ce soir pour nous en parler. Bonsoir à tous. La rougeole refait progressivement surface dans la province du Congo central. Depuis le dernier trimestre de l'année 2025, 479 cas suspects ont été enregistrés, dont 15 confirmés par l'INRB après analyse des échantillons. Selon le chef de division provinciale de la santé du Congo central, 5 décès ont déjà été rapportés. L'épidémie a poursuivi son expansion au cours de la semaine écoulée. 42 nouveaux cas de rougeole ont été notifiés sans décès. Le docteur Bonheur Chiteku attribue cette résurgence de la maladie au non-respect du calendrier vaccinal par certains parents. Docteur Bonheur Chiteku, chef des divisions provinciales de la santé du Congo central et au micro de Nana Plurichemang.
L'année 2025, nous avions eu à notifier 479 cas suspects de rougeole, dont 5 décès. Et les échantillons qui ont été envoyés à l'INRB, 15 sont revenus positifs. Alors, nous disons que la rougeole refait surface étant donné que déjà la semaine passée, nous avions eu à notifier 42 cas suspects de rougeole, dont 0 décès. Donc, cette maladie a eu à être notifiée dans 7 zones de santé. C'est notamment les zones de santé de Kizu, Nzanza, Matadi, Sonampang, Kitona, Lukula. Chez là, où il y a déjà 4 cas qui sont positifs. Nous mettons en place le renforcement de la surveillance épidémiologique au niveau communautaire et au niveau des établissements de soins. Nous renforçons aussi la vaccination des routines, qui est même le socle. Donc, le pays a eu à mettre en place la deuxième dose de vaccins anti-rougeole. Mais malheureusement, les parents sont encore habitués à l'ancien calendrier vaccinal qui limitait l'enfant à 9 mois de ses rendez-vous, alors qu'actuellement, il y a 9 rendez-vous qui sont donnés pour que l'enfant puisse bénéficier de tous ces vaccins, dont le VAR qui est le vaccin qui prévient la rougeole.
La Direction générale des impôts, DGI en sigle, informe le public ainsi que les propriétaires de véhicules et les usagers de la route du lancement officiel de la nouvelle plaque minéralogique sécurisée. Cette mise en circulation débute demain 6 janvier 2026. L'annonce a été faite dans un communiqué publié sur X. Cependant, une question demeure tout de même. Pourquoi la DGI introduit-elle cette nouvelle plaque alors que certains requérants n'ont toujours pas reçu celle qu'ils avaient commandée avant? Élément de réponse dans ce communiqué de la DGI, lu pour nous ici par Élise Kavira.
La DGI précise que le lancement de cette nouvelle plaque conçue conformément aux standards internationaux en remplacement à l'ancienne résulte de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'améliorer la sécurité des automobilistes, d'harmoniser le système national d'immatriculation des véhicules et de faciliter le contrôle routier par le service de la police. En effet, pour une bonne harmonisation du système national d'immatriculation automobile, la DGI invite tous les propriétaires des véhicules automobiles à se procurer la nouvelle plaque minéralogique sécurisée pour se conformer à la nouvelle réglementation.
La problématique des plaques minéralogiques, un des sujets évoqués par le président de la République lors de la dernière réunion des ministres de 2025 il y a une semaine, le chef de l'État s'est dit préoccupé par la rareté persistante, voire la rupture des stocks des plaques d'immatriculation à travers le pays. Selon lui, cette situation engendrait des conséquences néfastes, notamment sur le plan sécuritaire, en compliquant la prise en charge des usagers de la route. On écoute un extrait du compte-rendu de cette réunion du gouvernement, lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, mais aussi porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Hirung.
Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la délivrance des plaques d'immatriculation pour véhicules. Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit de nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaques réglementaires ou à s'émunir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport.
La décision d'imposer une nouvelle plaque d'immatriculation aux automobilistes intervient, selon certains observateurs, non seulement au pire moment, mais également dans une logique jugée déconnectée de la réalité sociale du pays. Pour le coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, par exemple, il ne s'agit pas d'un simple débat technique ou administratif. Dans une tribune publiée le week-end sur les réseaux sociaux, Jonas Tchombela estime que l'accumulation des taxes et redevances imposées aux Congolais, souvent perçues dans un climat de tracasserie routière, donne l'impression d'un État plus prompt à prélever qu'à protéger, plus efficace pour taxer que pour améliorer les routes, sécuriser les usagers ou mettre fin aux abus. On écoute Jonas Tchombela au micro une fois encore de Alain Hirung.
L'État semble avoir choisi le pire moment pour imposer une nouvelle plaque d'immatriculation, alors que les Congolais peinent à survivre sans revenu stable. Les automobilistes sont soumis presque ou même au même moment à une avalanche de taxes, vignettes, contrôles techniques, permis de conduire, assurance, carte rose et maintenant sur les changements de plaques. Ce cumul de charges devient une véritable asphyxie financière pour la population déjà appauvrie. Le problème n'est pas la modernisation, mais l'absence de sens social et de dialogue. La fiscalité ne doit pas écraser les citoyens, mais les accompagner. Il est urgent que les autorités réévaluent ces mesures, instaurent un moratoire et placent enfin l'humain au centre de l'action publique.
De son côté, l'association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, se dit également inquiète du lancement de la nouvelle plaque d'immatriculation, alors que plusieurs requérants n'ont même pas encore reçu les anciennes plaques qu'ils avaient commandées. Vous le savez sans doute, c'est demain mardi que l'école en République démocratique du Congo reprend dans tout le pays. Au Nord Kivu, cette reprise coïncide avec le retour dans leur zone pour une dizaine d'écoles des axes Boabo et Showa dans le territoire de Masisi. Déplacés au début de l'année scolaire par les combats, ces établissements s'apprêtent à entamer le deuxième trimestre sur leur site d'origine, cela grâce à une accalmie dans la zone. Mais les bâtiments, par exemple, sont sortis meurtris de la guerre. Luc Nyamulinduka, chef de la sous-division EPST Masisi 1, lance un cri d'alarme pour obtenir un appui d'urgence. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Pendant ce premier trimestre, les membres du comité sous-provincial de l'EDI NC Masisi 1 avaient décidé que les écoles de l'axe Boabo-Showa puissent étudier à Masisi étant donné que la situation sécuritaire dans ces zones n'était pas bonne. Comme il y aura rentrée le mardi 6 janvier 2026, j'ai pris au chef d'établissement d'ouvrir les écoles dans leurs milieux respectifs, étant donné que la situation sécuritaire est déjà établie dans ces zones. Par ailleurs, ces écoles étaient occupées par les belligérants. Il y a ces écoles-là qui avaient été détruites. Il y a ces écoles-là qui avaient été pillées. D'autres, c'était des cibles d'attaque. En tout cas, je prierai aux partenaires de venir ces écoles en aide pour que les enfants qui étudient dans ces écoles puissent étudier aussi comme les autres enfants congolais.
Dans la province du Lualaba, l'affaire du meurtre du docteur Emmanuel Nawej à Kolwezi a connu un tournant judiciaire. Deux policiers ont été condamnés, tandis que d'autres ont été acquittés par la cour militaire de l'ex-Katanga. Le verdict est tombé le week-end à l'issue des audiences publiques organisées à Kolwezi. La cour a également ordonné l'inhumation du docteur Nawej près de 2 mois après son décès. Paulin Munanga.
5 prévenus, dont 4 policiers et 1 civil, ont été poursuivis pour atteinte aux droits et libertés garantis aux particuliers et pour torture. 2 prévenus sur les 5 sont condamnés pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Il s'agit des prévenus Benatar Christian Mwisange, qui est condamné à 24 mois de servitude pénale principale, et de Virginie Mujinga Kadima à 12 mois. Les condamnés vont payer à la partie civile l'équivalent en francs congolais de la somme de 25 000 $ américains pour tout dommage subi. 3 personnes, dont 2 policiers et 1 civil, sont acquittées pour insuffisance des charges. La cour a ordonné la levée de la mesure de conservation du corps du docteur Nawej et sa remise aux ayants droit afin de procéder à l'inhumation. Pour rappel, le docteur Emmanuel Dibou Nawej est décédé dans la nuit du 9 au 10 novembre 2025 dans un cachot du centre de coordination des opérations à Kolwezi. Il a été arrêté après un incident mineur de circulation. Sa mort a provoqué des manifestations des médecins dans la ville de Kolwezi. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek, évêque du diocèse catholique de Butembo Beni, met en garde les jeunes contre certaines habitudes qui, selon lui, fragilisent la vitalité de la jeunesse. Il l'a dit lors de la messe de Nouvel An jeudi dernier à Butembo. Selon ce prélat catholique, la multiplication sans contrôle des lieux de production de boissons artisanales représente une menace sérieuse pour le bien-être des jeunes. Écoutons Monseigneur Sikuli Paluku Melchisedek dans cet extrait choisi par Papi Martial Mukeba.
Pour votre avenir, je vous mets en garde par rapport à la prolifération rapide et incontrôlée des usines de fabrication de boissons fortement alcoolisées, notamment des whisky et de vins artisanaux locaux. Attention à cette forme de guerre qui ruine et lamine votre précieuse jeunesse. Évitez ces boissons de grâce pour votre santé spirituelle, mentale et physique.
Restons encore dans la province du Nord Kivu pour ajouter que l'administration du territoire de Lubero tourne au ralenti depuis 3 jours. En effet, les agents des services publics territoriaux sont en grève pour exiger une rémunération jugée juste et équitable, l'amélioration de leur cadre de travail ainsi que le bénéfice d'avantages sociaux décents. Dans une lettre adressée à l'administrateur du territoire, ces agents dénoncent ce qu'ils qualifient d'abandon du territoire depuis plus de 2 décennies par le gouvernement congolais, qu'ils accusent au passage de ne pas mettre à la disposition de Lubero les moyens financiers suffisants pour assurer son fonctionnement normal et la prise en charge du personnel. Évariste Kassere Kakiti, secrétaire administratif du territoire de Lubero et l'un des grévistes, évoque le caractère légal de leurs revendications. Il est au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Les malheurs du territoire remontent depuis 2006. Il est passé d'une entité décentralisée à une entité dite déconcentrée. C'est là que les agents se trouvent entre les marteaux et l'anglais. crime. La loi organique porta fixation des subdivisions à l'intérieur des provinces, dit que les dépenses de fonctionnement et d'investissement du territoire ainsi que la rémunération de son personnel est marge au budget de l'État. Tout ce que nous réclamons tire son fondement, parce qu'une entité comme le territoire ne peut pas fonctionner sans budget. À partir de ce 2 janvier, nous venons de déclencher un mouvement de grève. Nous regrettons que cela arrive au moment où l'entité fait effectivement face à une menace sérieuse. Mais lorsqu'on est au bout des moyens, que voulez-vous qu'on fasse vraiment?
À ce stade, nous n'avons pas encore réussi à obtenir la réaction de l'administrateur du territoire de Loubero.
Actualité internationale.
La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a plaidé hier dimanche pour une relation équilibrée et respectueuse avec les États-Unis lors de son premier conseil des ministres, invitant Washington à travailler conjointement à un agenda de coopération.
L'invité.
Nous vous l'avons indiqué en début de ce journal, la RDC, depuis 3 jours, a officiellement entamé son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. À cette occasion, la ministre des Affaires étrangères de la RDC a affirmé que le pays siégera avec un esprit de dialogue, un sens élevé du multilatéralisme et la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Quels sont alors désormais les principaux défis qui attendent la RDC dans son rôle stratégique? Élément de réponse dans cet entretien que Frédéric Amani, expert en relations internationales, a accordé à Alain Irung.
Frédéric Amani, bonjour. Selon vous, quels sont les défis qui attendent la RDC?
Bonjour. Au-delà d'être une fierté ou un honneur pour la RDC, je pense que c'est beaucoup plus une responsabilité à remplir et un défi à relever en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui. Alors, je pense que les attentes de l'Afrique et du monde dépendront de la vision que chaque parti a. Je m'explique. Pour l'Afrique, par exemple, cela dépendra de la vision que l'Afrique a du monde dans différents domaines ou comment est-ce que l'Afrique se conçoit vis-à-vis des autres régions du monde. C'est notamment dans la question des réformes du Conseil de sécurité où l'Afrique voudrait avoir un ou deux représentants comme membres permanents du Conseil de sécurité. Il y a aussi la question des échanges commerciaux où l'Afrique semble être marginalisée par rapport à d'autres régions. Il y a aussi, n'est-ce pas, la question du réchauffement climatique où l'Afrique est plus victime alors qu'elle n'est pas le principal pollueur. Ce sont là des questions majeures auxquelles l'Afrique, n'est-ce pas, voudrait avoir plus d'éclairage ou de soutien grâce à la présence de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité qui va porter la voix de l'Afrique dans ces instances. Mais par rapport au monde, je pense que le monde attendra de la RDC un rôle majeur dans la régulation de la gouvernance mondiale en matière, par exemple, climatique, en matière énergétique, ou en matière migratoire et surtout en matière sécuritaire avec des tensions par-ci, par-là, mais aussi en matière numérique. Ce sont les questions majeures aujourd'hui qui constituent la gouvernance mondiale et que le monde entier attendra voir un rôle significatif joué par la RDC en tant que membre du Conseil de sécurité dans ces hauts lieux de la politique internationale.
La ministre des Affaires étrangères a dit que la RDC va porter une voix de vérité en mettant l'accent sur le multilatéralisme et le respect du droit international. Avec la situation que la RDC elle-même connaît, pensez-vous que ce sera facile, qu'elle pourra atteindre ses objectifs dans ce mandat?
Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de préciser une petite chose. C'est qu'il faut noter que l'échiquier international est un champ des rapports de force entre acteurs. Voyez-vous? Alors, pour revenir à votre question, pour que la voix congolaise pèse, cela dépendra de sa capacité institutionnelle, politique, économique, culturelle et diplomatique à mobiliser les ressources stratégiques nécessaires en sa faveur pour que sa voix puisse compter dans les concerts des nations. Bref, il faudrait que la RDC soit en mesure de se doter d'un véritable soft power capable de faire entendre sa voix dans les concerts des nations. Et sa présence au sein du Conseil de sécurité comme membre non permanent devrait lui permettre de mobiliser davantage d'autres partenaires pour faire entendre sa voix par rapport à la question de l'Est, par rapport, n'est-ce pas, à l'instabilité et par rapport à la stabilité de la région des Grands Lacs. Ensuite, avec le renouvellement du mandat de la MONUSCO, au travers d'une diplomatie multilatérale, la RDC peut s'appuyer sur l'ONU pour faire entendre sa voix dans les concerts des nations et ce sera en sa faveur par rapport aux différents défis auxquels elle est confrontée, notamment les défis liés à la sécurité et à la paix à l'est de la RDC.
La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a déclaré que la RDC connaît ce que c'est que la guerre et elle va apporter son expertise dans ce domaine. Il y a beaucoup de conflits à travers le monde. Comment la RDC pourrait-elle capitaliser, selon vous, d'aspects durant son mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies?
Il faut noter que cela reste un défi majeur pour la RDC et pour les autres pays africains membres non permanents du Conseil de sécurité. Il y a la Somalie et le Libéria. D'abord, la Somalie qui présidera les conseils de sécurité durant le mois de janvier ici. Il faut noter que l'inefficacité ou au mieux les dysfonctionnements du Conseil de sécurité découlent des rivalités des intérêts entre les grandes puissances.
Frédéric Amani, je vous remercie.